très content d'être là. Vous savez, Nancy, c'est un peu, c'est là où j'étais étudiant et où j'ai vécu plein de choses super, où j'ai vraiment grandi dans ma foi. Et c'est toujours pour moi vraiment une joie d'être présent à Nancy. Et aussi, c'est chaque fois un peu l'excuse pour voir nos meilleurs amis qui sont Thomas et Malika. Donc comme ça, on fait un week-end aussi avec eux et puis ça en profite pour passer vous voir aussi. Donc, je m'appelle Benjamin, je viens de l'église de Sarrebourg. C'est une église aussi perspective, donc sœur à la vôtre. Et je suis très content d'être parmi vous, de pouvoir partager aussi la parole de Dieu. C'est aussi une responsabilité. J'avais entendu quelqu'un qui disait que la parole de Dieu, c'est comme une pierre précieuse. Mais si on vous la donne dans un papier journal, ben, ça peut potentiellement, vous ne voyez pas la pierre précieuse qui est à l'intérieur. Et en tant que prédicateur, on essaye de pas mettre dans un papier journal, mais de le mettre dans un beau papier cadeau, même si au fond, ce qui est important, c'est que c'est la pierre précieuse qui est au milieu. Et ce matin, un sujet que je voudrais vous parler, qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'église locale. Et je ne sais pas qui d'entre vous était déjà dans une église quand il était petit. Moi, j'avoue, c'est un peu cet amour pour l'église locale, ça vient pas mal de mes parents, qui étaient très investis dans leur église, et ils m'ont transmis ça aussi. Très investis, mais pas au point de m'en dégoûter. Hein. Vous savez, des fois, les parents ils sont tellement investis qu'après, on n'en veut plus de l'église. Non, ils m'ont plutôt transmis vraiment une vision positive de l'église locale, et aussi parce que mes parents, c'est des chrétiens de première génération. C'est-à-dire que leur famille n'était pas chrétienne, et eux se sont convertis, et l'église locale a été leur famille. Jean-Pierre parlait de la famille de Dieu et en effet, on va en parler un petit peu cet après-midi. Mon père, il était orphelin à 16 ans. Sa maman est décédée quand il avait 8 ans, son père quand il avait 16 ans. Et l'église a été sa famille. Et quelque part, je suis un peu héritier de ça. Et c'est pour ça aussi que l'église locale, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup à cœur et dont je voudrais vous parler aussi aujourd'hui. Je fais partie du conseil de l'église de Sarrebourg. Et moi, quand je suis dans les réunions du conseil d'église, quand je sors, je suis enthousiasmé. Parce que cette église locale, voilà, ça donne de l'énergie, ça me motive. Et je dois aussi vous dire que parfois, je suis un peu inquiet par la place que l'église a parmi les chrétiens aujourd'hui. L'église locale. Et la pandémie, je pense qu'elle a mis aussi un peu en lumière le fait que l'Église, parfois, elle est placée au second plan. J'avais une discussion avec un pasteur qui disait que dans certaines églises, il y a la moitié des gens qui ne sont plus revenus à l'Église avec la pandémie. Parce que c'était trop compliqué, il fallait mettre un masque, parce que le matin, il faut y aller, c'est difficile. Finalement, pourquoi aller à l'Église? La distanciation, c'est compliqué. Finalement, le bénéfice que j'y retire quand je viens à l'Église, il est moins important que ça me coûte. Et du coup, je viens plus. C'est un peu, c'est un peu, on marchandise un peu l'église, quoi. Si ça me plaît, si je suis content, si ça m'apporte quelque chose, je viens. Si ça m'apporte rien, j'y viens plus. Et ça ne sera pas une surprise pour vous si je vous dis que l'individu a pris la première place dans notre société aujourd'hui. Et par rapport à la communauté, souvent, c'est l'individu qui prime. On évalue les choses en fonction de ce qui est important pour nous. Un des exemples, c'est la question du couple. On est plus aujourd'hui, si la personne du couple m'apporte quelque chose, alors je reste. Et si ça ne m'apporte plus, si tout d'un coup je suis amoureux de quelqu'un d'autre, et je change. Vous voyez, c'est l'individu, c'est ce qui me définit moi-même, qui est la base de mes décisions, et pas la communauté, dans le cas du couple, l'alliance qu'il y a avec le couple. Et la Bible, elle n'est pas du tout en opposition avec les notions d'individu, pas du tout. Elle affirme que chaque personne est unique et que Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Elle dit que Dieu aime chaque personne individuellement, que chaque personne est précieuse, que Dieu est notre Père, qu'il est notre ami. La Bible affirme qu'elle a un projet pour chacun d'entre nous individuellement, qu'il nous a donné des dons individuels aussi, pour qu'on puisse les mettre au service de l'Église. Elle affirme que chacun est responsable de sa vie, l'individu encore qui est mis en priorité. Et c'est vrai que même si on trouve une certaine organisation dans la Bible avec des responsables d'église, la Bible affirme aussi qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Dans certaines manières de vivre la foi, il faut le prêtre pour communiquer avec Dieu. Mais non, il n'y a pas d'intermédiaire. L'individu, par Jésus, il peut directement parler à Dieu. Et je pense que c'est aussi pour ça que la Bible, elle est pertinente pour nous aujourd'hui, parce qu'elle répond en fait à tous les besoins de nos contemporains, à nous-mêmes, d'appartenance, d'amour, d'estime, d'indépendance, de libre arbitre, de choix, de sens à nos vies. Et je pense que c'est une bonne chose parce que avec cette notion saine de mettre l'individu aussi comme ayant une valeur propre, elle s'oppose à une société où ce serait le groupe qui définirait les choses et quitte à écraser l'individu. Finalement, ce serait le groupe qui aurait tellement des règles importantes que l'individu ne pourrait pas exprimer qui il est. Et moi, je suis très mal à l'aise avec l'interprétation que vous avez peut-être déjà entendue quand on dit qu'il y a un seul Saint-Esprit dans la Bible. Ça veut dire qu'on aurait tous pensé pareil. Je pense que ça ne rend pas justice au fait que dans la Bible, l'individu a une place importante et au profond respect que la Bible a de l'individu. Mais je pense aussi que vous serez tous d'accord pour dire que l'individualisme, quand il est poussé à son extrême, il ne porte pas de bons fruits. Et quand on pousse l'individualisme à son extrême, il y a un certain orgueil. Je peux faire toutes les choses toute seule. Un certain égoïsme, puisque je définis les choses à partir de moi. Et ça me rend imperméable parfois aussi aux besoins des autres qui m'entourent. Et je voudrais vous rendre attentif aussi au fait que des fois, même derrière des bonnes intentions chrétiennes, on peut aussi cacher une certaine forme d'égoïsme. Je m'engage pour les autres, pour l'Église, mais finalement ce que je cherche dans cet engagement, c'est du plaisir, un sens à ma vie, une cause à défendre, de la reconnaissance des autres, un sentiment d'être utile. Et finalement, même dans cet engagement, je suis centré sur moi aussi. Et l'Église, du coup, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, on peut l'aborder un peu, si on est trop dans la partie individualisme, avec une certaine attitude de consommation. Je vais à l'Église qui me plaît, avec la louange qui me plaît, l'orateur qui me plaît, et si ça ne me plaît pas, je change d'Église. Une autre conséquence, peut-être, quand on pousse l'individualisme à l'extrême, c'est qu'on peut même se poser la question, est-ce que l'Église est vraiment utile ? Finalement, si c'est la relation avec Dieu, la relation individuelle de l'homme avec Dieu qui est prioritaire, je peux très bien vivre ma vie chrétienne sans les autres. Je peux aller écouter des messages, des très bons messages à la chapelle, par exemple, à la PO, voilà. Et je peux vivre ma vie chrétienne chez moi. Je peux écouter mes chants de louange, chanter à la maison et grandir dans ma foi comme ça. Pourquoi j'ai besoin de l'Église ? Il y a certains qui affirment aussi que ce qui est important, c'est de faire partie de l'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'Église, des fois on dit l'Église avec un grand E, c'est l'assemblée de tous les chrétiens. D'accord ? Donc je n'ai pas besoin de venir à une Église locale, moi j'appartiens à l'Église universelle de tous les chrétiens. Et c'est vrai, je pense que c'est juste de dire ça aussi, parce que des fois on se bat, on fait des guerres de clochers entre les églises, mon église est meilleure que la tienne, et du coup, finalement, ça dégoûte les gens parce qu'ils disent, mais si c'est ça, être chrétien, et chaque fois on va à l'église de l'autre parce qu'elle est meilleure, ça peut décourager les gens, et ils disent, mais moi je veux pas de ces guerres-là entre églises, je préfère participer à l'église universelle, et comme ça, je m'engage pas localement. Mais ce que j'ai aussi constaté, c'est que parfois, cette idée-là de dire « je ne fais pas partie de l'Église locale, je fais partie de l'Église universelle », c'est un peu une excuse aussi pour ne pas entrer en relation avec les autres. Éviter les tensions qui sont liées au fait que quand on se réunit ensemble et qu'on est différent, ça crée forcément des tensions. J'évite les gens qui sont différents de moi, qui pensent différemment de moi. Et quelque part, j'évite peut-être de me remettre en question aussi parce que d'autres voudraient vouloir me dire. Et des fois aussi, c'est juste parce qu'ils sont déçus. Les gens étaient déçus dans une église. Du coup, ils veulent dire, si c'est comme ça chez les chrétiens, alors je ne vais plus à l'église. Et je participe à l'église universelle. Et du coup, ce que je voudrais te poser comme question cet après-midi, c'est quelle est la place de l'église dans ta vie ? Quelle est la place de l'église locale dans ta vie ? Quelle est la place des autres membres aussi de l'église dans ta vie ? Et si je te parle tout ça cet après-midi, c'est je crois qu'en tant que Français du XXIe siècle, on doit réapprendre la place centrale de la communauté dans la foi. Parce qu'on est habitué à vivre beaucoup l'individu, et c'est une bonne chose, comme j'ai déjà dit, mais on doit aussi combattre l'idée que la foi, c'est juste une question de relation individuelle avec Dieu, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu, Jésus n'est pas venu seulement sauver des individus, mais son projet, c'est votre projet, comme dirait quelqu'un, c'est que de créer un peuple qui lui appartienne. Dieu n'est pas venu seulement sauver des individus, il est venu pour créer, Jésus est venu pour créer un peuple qui lui appartienne. Et dans l'Ancien Testament, ce peuple, c'était le peuple juif, mais dans le Nouveau Testament, c'est pas fini. C'est pas fini cette histoire de peuple. Bien au contraire, avec l'arrivée de Jésus, ce peuple, il s'est élargi et il a pris les juifs et les non-juifs, tous ceux qui ont accepté Jésus font partie de ce peuple-là. Et c'est tout le propos de Éphésiens 2, à partir du verset 11, de Paul, qui réexplique ça. Il dit, il y avait les juifs avant, mais ce n'est pas fini le peuple de Dieu. Il y a aussi les non-juifs qui font partie de ce peuple-là. Au verset 14, on peut lire, « Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des juifs et des non-juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait en faisant des ennemis. » Et vous voyez que dans ce verset, c'est très clair. Il y a la notion de peuple, elle ne s'est pas arrêtée à l'Ancien Testament, mais elle continue aussi dans le Nouveau Testament, et elle continue aussi pour nous. Souvent, on cite le verset Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc il y a bien le quiconque là. Là, on insiste beaucoup sur l'individu. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est l'individu qui est sauvé là. Mais dans Tite 2, verset 14, il dit aussi, « Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. » Jésus, il est mort pour créer ce peuple. Éphésiens 2, 16, dans le même passage qu'on est en train de regarder ensemble, « Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps. Il les a réconciliés avec Dieu par la croix. » Il a détruit la haine. Et si ce peuple il a une telle importance pour Dieu, au point que Jésus est mort pour créer ce peuple-là, alors en tant que disciple de Jésus, il doit aussi avoir une importance pour nous. Et le plan pour chacun d'entre nous, c'est que nous intégrions ce peuple. Et pour rendre cette notion de peuple un peu plus concret, Paul il va utiliser trois images qui vont nous aider à comprendre ce à quoi nous sommes appelés à participer. Et je vais lire quelques versets à partir du verset 19. Par conséquent, vous les non-juifs, je ne sais pas s'il y a des juifs parmi nous, mais en tout cas, ça s'adresse à nous, en tout cas à moi, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. Avant d'être chrétien, je ne sais pas si vous êtes déjà chrétien, si vous avez déjà fait le choix de suivre Jésus. Si c'est le cas, vous êtes des étrangers, encore pour Dieu, mais, bonne nouvelle, par la mort de Jésus, on peut devenir proche. Et à partir du moment où on est chrétien, en plus d'être pardonné de nos péchés, en plus de recevoir le Saint-Esprit en nous, en plus d'avoir l'espérance de vivre avec Dieu pour toujours, nous sommes aussi intégrés, au même moment, à une communauté bien plus large. Et Paul dit que nous sommes concitoyens du peuple de Dieu, que nous appartenons à la famille de Dieu et que nous sommes intégrés à une construction. Être concitoyen, ça veut dire être citoyen avec. Alors moi, quand j'ai vu ce mot-là, je me suis dit, tiens, d'habitude j'utilise le mot citoyen, ça veut dire quoi concitoyen? Quelle est la différence entre concitoyen et citoyen? Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, concitoyen, donc dans la partie con, ça veut dire avec. Et un concitoyen, du coup, c'est forcément quelque chose où je suis en relation avec quelqu'un. Je peux pas être concitoyen tout seul. Et souvent, on utilise ça quand on est à l'étranger. En fait, si je rencontre un Français à l'étranger, on va dire qu'on est concitoyen. Si on est tous les deux en France, on est citoyen. Mais quand on est à l'étranger, on dit c'est mon concitoyen, mon compatriote. Et ça renvoie à la notion que vient de dire Paul, hein, qui dit on est étranger et on est concitoyen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on appartient à un autre État, à un autre royaume, en étant concitoyen. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait qu'on est concitoyen d'un autre royaume. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que à l'époque de Paul, le citoyen romain, c'était quelque chose de très positif. Je ne sais pas quelle idée vous avez d'être citoyen français, si vous trouvez ça positif ou pas. Mais en tout cas, à l'époque, être citoyen romain, c'était quelque chose vraiment de très positif, parce que c'était un grand privilège déjà, tout le monde ne l'était pas, et ça offrait des avantages spécifiques et une certaine responsabilité aussi. C'était un honneur. Et en tant que citoyen romain, on ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi à un autre citoyen. Puisque l'autre citoyen avait aussi des droits, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec un autre citoyen romain. Il y avait donc un certain respect particulier qui était associé à cette notion de citoyen. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'étranger, mais quand on rencontre quelqu'un de sa région ou de son pays, je sais pas, il y a comme si on a envie tout de suite de parler du pays. Ouais, moi je suis d'origine alsacienne, sans vouloir faire trop de chauvinisme, d'ailleurs je ne suis pas, mais voilà, souvent on rencontre quelqu'un, ah mais tu viens de telle région, ah ben ouais, c'est comme c'est joli, ou t'as vu déjà ça, voilà, ou les Français, on est content, on se parle de fromage, et puis on est heureux. Et quelque part, ça m'a posé la question un petit peu, mais quand en tant que concitoyen d'un autre royaume, on rencontre d'autres concitoyens, est-ce qu'on a cette même joie? Est-ce qu'on a cette même joie d'être finalement, on sait qu'on est dans un pays étranger, mais on sait qu'on est du même pays qui est plus loin, qui est le royaume de Dieu? Et quelques questions que je voudrais t'amener à la réflexion. Voilà. Qu'est-ce que ça change d'être concitoyen du peuple de Dieu? Est-ce que tu connais tes droits et tes devoirs en tant que concitoyen? Comment est-ce qu'en Église aussi, vous pouvez développer le respect pour les autres membres? Est-ce que ça te fait plaisir lorsque tu rencontres d'autres concitoyens? Comment cultiver dans votre Église cette idée que nous sommes citoyens d'un autre État? La deuxième image que Paul utilise pour parler de ce nouveau peuple, il dit que nous sommes une famille, que nous faisons partie de la famille de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce vocabulaire, mais c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on est des frères et sœurs. Alors, je pense que c'est pour les gens qui ne vont jamais à l'église, ils disent, mais c'est un peu bizarre, ceux-là, ils disent qu'ils sont frères et sœurs. Et pourquoi on dit qu'on est frères et sœurs? Mais c'est parce que la Bible, elle affirme, elle dit, vous êtes de la famille de Dieu. Donc, on est bien frères et sœurs. Et vous savez ce qu'on dit? On choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Et si Thomas est mon frère, c'est pas parce que je l'ai choisi, c'est parce qu'on a le même père. C'est pas centré sur nous, là. Les frères et sœurs que vous avez autour de vous, c'est pas parce que vous les avez choisis, c'est parce qu'ils ont un père et que vous avez le même père. Et aucune circonstance ne peut changer ça. Même si votre frère, vous l'aimez pas, et ça change pas. Il est quand même votre frère, vous ne pouvez pas le renier, parce que ce n'est pas de votre décision. Et je pense que c'est une bonne chose aussi, parce que c'est ça qui fait la richesse de l'Église. Même si c'est parfois difficile. Ça nous rappelle que ça ne tourne pas autour de nous, mais que ça tourne autour de Dieu. Alors c'est vrai, là je donne un peu l'aspect peut-être négatif de la famille, mais si la Bible parle de la famille, c'est bien sûr une notion positive. Plus que les disputes entre les frères et sœurs, c'est plutôt l'amour entre les frères et sœurs qui est souligné par cette notion de famille. Parce que c'est le cœur de la famille, l'amour. Le soutien mutuel. On aime bien utiliser un peu le mot de communion fraternelle. On ne sait pas des fois trop ce que ça veut dire. Mais ça vient de là, ça vient de cette notion qu'on est une famille. Et qu'en tant que famille, on est appelé à développer l'amour, le soutien mutuel. Je vous l'ai déjà dit, mon père, qui était donc orphelin à 16 ans, l'Église a été sa famille. Il a trouvé d'autres pères et mères dans l'Église, des gens qui l'ont soutenu, qui l'ont encouragé, des frères et sœurs qui l'ont aussi encouragé. Et c'est vraiment cette belle notion de famille qu'on est appelé à vivre en tant qu'Église. Et toi, comment es-tu dans la famille? Quelle relation tu as avec tes frères et sœurs? Comment vous pourriez, en tant qu'Église, développer cette notion de
famille, de communion fraternelle. Comment vous pourriez rendre visible cette notion de famille? Là, on est un dimanche matin, on a des masques, peut-être qu'on là, on va se voir 2 heures et puis on va repartir. Comment on rend visible cette notion de famille? Comment les personnes qui viennent pour la première fois, ils ne se sentent pas comme un club, mais comme une famille? La dernière idée que Paul partage dans ce texte, par rapport à ce nouveau peuple, il dit qu'on est une construction. Alors j'ai une nouvelle incroyable pour vous. On ne peut pas faire une construction tout seul. C'est une pierre posée au milieu du sol, ça ne fait pas une construction. On ne peut pas faire une construction seule, et la construction ne peut pas avoir lieu sans nous aussi. Vous savez, s'il y a un mur et qu'il y a le mur essaie de se construire, mais qu'il y a une pierre qui va ailleurs, il n'y a pas de construction non plus. Chacun a besoin de trouver sa place, et la pierre angulaire, c'est ce que dit le texte, la pierre angulaire, c'est la pierre qui permettait de créer les bases pour faire un bâtiment solide, c'est Jésus. C'est lui qui nous unit et qui assure la solidité. Et cette construction dans le texte, elle a un objectif. Si on se retrouve pour former un peuple ensemble, ce n'est pas uniquement pour faire des chouettes repas, passer du bon temps ensemble entre amis. On est en France quand même, donc on aime bien manger, en tout cas moi. C'est pas seulement pour ça qu'on est appelé à se retrouver en tant que chrétien. Nous sommes appelés à former, le texte dit, un temple saint. Saint, ça veut dire mis à part pour Dieu. Et un temple, c'est l'endroit où on va louer, on va adorer Dieu. Donc en fait, en tant que construction, quand on se rassemble en tant que chrétien, c'est pas seulement pour vivre des choses bien ensemble, mais on est appelé à être un temple saint pour Dieu. Et c'est aussi pour ça que c'est très important la louange communautaire. Et quand j'ai demandé à Thomas, est-ce qu'on peut faire la louange après la prédication, il m'a dit, écoute, ça tombe bien, en général c'est toujours comme ça. Mais parce que je voulais aussi vous dire ça, la louange, quand c'est différent, des fois on dit, ouais, mais je chante la louange à la maison. C'est bien, et notre ami Eric, là, il a donné la louange à écouter à une dame, et on peut évidemment louer chez soi, hein, et c'est pas interdit, évidemment. Mais quand les chrétiens se rassemblent pour louer, c'est quelque chose de spécifique, de très spécial, et c'est à quoi, en fait, Dieu nous appelle. Et c'est ce qui va se passer dans l'éternité, quand on sera avec lui pour l'éternité. On va être ce peuple réuni. Vous ne serez pas chacun dans votre chambre au ciel en train de louer Dieu en écoutant Hillsong. Non, on sera tous réunis ensemble pour louer Dieu. Et donc, quand on vit cette louange ensemble en église, on est cette image aussi de ce qui va arriver plus tard. Et ça rend visible ce peuple que Dieu a voulu créer avec la mort de Jésus à la croix. Et je trouvais ça aussi très intéressant, à la fin du texte, c'est dit que la construction, on est la maison que Dieu habite par son esprit. Quand les croyants se réunissent pour former l'église locale, c'est la maison où habite le Saint-Esprit. Alors évidemment, j'espère que vous êtes tous convaincus que à partir du moment où on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit directement. Donc le Saint-Esprit, il vit en chacun d'entre nous. Mais quand les croyants se réunissent, il se passe aussi quelque chose de spécial. Et le Saint-Esprit, dans toute sa diversité, parce qu'il a donné don à chacun, mais chacun a des différents, et quand les croyants se réunissent, c'est aussi dans ce moment-là que le Saint-Esprit, dans toute sa diversité, dans toute sa grandeur, peut s'exprimer pleinement. Et toi, quelle part prends-tu dans cette construction? Es-tu prêt à participer à une construction commune? Des fois, pour mettre des pierres ensemble, il faut un peu tailler. Heureusement qu'il y a du bon mortier, mais... Ou est-ce que tu veux faire ta construction dans ton coin? Est-ce qu'en tant qu'église, vous êtes conscient que vous êtes le temple de Dieu? Quelle place laissez-vous en tant qu'église au Saint-Esprit pour qu'il agisse? Voilà pourquoi j'aime tellement l'église locale. Je trouve ça tellement incroyable qu'on n'ait pas seulement été sauvés seuls, mais Dieu nous a intégrés à une communauté bien plus grande avec plein de richesses. J'espère vous avoir convaincu avec ces quelques mots que l'Église, c'est pas juste un rajout facultatif à la foi chrétienne. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de se créer un peuple. Oui, c'est un défi, c'est vrai, mais c'est aussi une énorme richesse. Parce que c'est un lieu de bénédiction, un lieu d'engagement, un lieu où le plan de Dieu est visible. Et il peut être visible aussi pour les autres. Ma prière, vraiment, c'est que pour chacun d'entre vous, pour moi aussi, mon amour pour l'Église grandisse. J'ai prié encore. Seigneur, merci pour l'Église. Et des fois, je pense que je dis merci, mais des fois c'est un peu dur aussi. Je ne suis pas sûr que j'arrive à dire merci tous les jours. Mais je crois que tu veux aussi nous ouvrir les yeux à dépasser un peu ce qu'on pense, à dépasser un peu ce qu'on voit juste dans notre proximité et à voir le plan plus grand que tu as prévu aussi. Vraiment, Seigneur, change nos cœurs pour nous donner de l'amour pour l'Église, parce que c'est ton plan. Parce que les frères et sœurs que tu as placés à côté de moi, c'est tes enfants. Seigneur, je te prie que cette Église en particulier puisse être cette construction qui est un temple pour te louer et une maison où le Saint-Esprit habite. Amen.